Si on écoute les Syriens aujourd'hui parler de cette guerre, ils disent tous que c'est une guerre qui leur a été imposée. Alors, si on retourne 5 ans en arrière, on se souvient des manifestations demandant la démocratie, etc. Mais ça rentrait aussi dans un cadre que l'on appelait le printemps arabe et qui était poussé de l'extérieur. Donc, la main extérieure est intervenue. Et souvent, la main en question et le bras par derrière ne sont pas suffisamment sensibles aux réalités locales et créent plus de problèmes qu'elles ne cherchent à en résoudre. Alors, promouvoir la démocratie, c'est important, mais ça doit se faire de l'intérieur et pas de l'extérieur, sinon on va vers une catastrophe. Et les Syriens aujourd'hui, quels qu'ils soient, musulmans comme chrétiens, se trouvent dans une situation dramatique, tragique, et analysent d'une manière très sévère tous les intérêts extérieurs qui ont utilisé la Syrie comme champ de bataille. Que ce soit pour la promotion de la démocratie, que ce soit pour des raisons économiques, cette guerre, elle enrichit les marchands d'armes, cette guerre, elle permet un accès bon marché à du pétrole. Donc, la guerre, elle enrichit des gens. Mais évidemment, le nombre de victimes est conséquent. Et puis, c'est un champ de bataille géopolitique entre la Russie, l'Europe, les États-Unis. C'est un champ de bataille entre sunnites et chiites. Et c'est sans doute une réalité plus profonde que celle que l'on perçoit habituellement. Mais le peuple syrien est victime.
Que veulent les Syriens aujourd'hui?
Pas seulement les Syriens et les Irakiens, Irak et Syrie qui sont en guerre, mais aussi ceux qui reçoivent les réfugiés en masse, qui sont les Jordaniens, les Libanais et les Turcs, dans le réseau Caritas, et aujourd'hui ne disent plus qu'une chose, l'aide humanitaire. On a soupé, on en a besoin, certes, mais ça n'est pas la solution, on veut la paix. On leur dit, vous avez besoin de quoi? C'est la paix. Et ils vous le disent fort. Et ils vous le disent d'une manière énervée parce que ils ont le sentiment que rien n'est fait pour sortir de ce tunnel dans lequel ils se trouvent.
Est-ce que votre campagne, du coup, sert à relayer ce message, cet appel à la paix?
Il faut un engagement plus important. Il a commencé déjà, et donc c'est pour ça que c'est important d'appuyer aujourd'hui de la communauté des nations pour un dialogue politique, qui soit un dialogue politique des Syriens eux-mêmes. Ce n'est pas le dialogue entre Russes et Américains qui résout le problème, mais il faut que les Syriens se parlent entre eux. Et cette démarche doit être inclusive, ils le disent très clairement aussi, il faut que tout le monde soit à la table. Si tout le monde n'est pas à la table, la guerre continuera. Alors, Daesh est considérée comme une organisation terroriste, ce qu'elle est. Elle est irakienne, syrienne, mais elle est internationale aussi. Ça veut dire que les combattants de Daesh sont largement, on ne sait pas exactement quel pourcentage, mais des étrangers. Ce ne sont pas des Syriens, ce ne sont pas des Irakiens seulement. Et à l'origine de Daesh, il y a des Irakiens sunnites qui ont servi Saddam Hussein, qui ont fait leurs études aux États-Unis ou en Europe, et qui ne sont pas des gens idiots et pas des terroristes au premier degré comme ça. Et donc il y a aussi chez Daesh des gens avec qui il faut parler. Alors de dire ça, ça peut paraître fou, mais on sait d'expérience que si on veut arrêter une guerre, il faut que tout le monde viennent à la table. Alors, bon, quelles sont les conditions que pourrait mettre Daesh pour parler? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas ignorer Daesh parce que sinon, ça veut dire que on va continuer la guerre.
Et le fait que Bachar al-Assad accepte de participer, justement, de prendre part à ce dialogue?
Il accepte, mais je crois qu'il n'attendait que ça quelque part. Bon. Par contre, le fait d'avoir accepté pour la communauté internationale que le gouvernement syrien actuel siège, c'est le début, effectivement, d'un processus qui va conduire à cesser le feu. Et c'est par là qu'il faut passer. Tant qu'on a entendu le ministre français des Affaires étrangères, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, dire Assad à la table, non, alors égal, on continue la guerre. Bon. Et puis les Syriens, quand on parle avec eux, finalement 5 ans après, disent que ça n'était pas si mal que ça avec Assad. Malgré tout ce que l'on sait d'avant, malgré tout ce que l'on sait depuis le début de la guerre, parce que beaucoup de Syriens ont été tués par le régime et continuent d'être tués par le régime, mais. Donc entre deux mots, voilà, le pire, le moins pire, bon. Donc c'est le genre de discours que l'on entend. Et on n'écoute pas, je pense, suffisamment les Syriens. Ces voix-là, on ne les entend pas dans les médias, on ne les entend pas, et on a l'impression que les politiques ne les entendent pas non plus, et que le problème syrien est un problème international. Les Syriens sont les victimes, mais quelque part, bon.
Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que veut faire Caritas International avec cette nouvelle campagne que vous lancez?
Ce que le réseau Caritas veut faire là, c'est demander aux États, et pas seulement aux plus concernés, bon, puisqu'on est présent partout sur la planète, c'est que chaque gouvernement se préoccupe de ce qui est en train de se passer là. On ne considère pas ça comme c'est une affaire des grands et c'est tout. Non, chaque voix compte dans la communauté des nations. Donc on invite toutes les Caritas à faire en sorte que leur gouvernement soit préoccupé et à sa manière participe à la réflexion, à l'action en vue de la fin du conflit. Chaque État participe ou appartient à un groupe, à des groupes d'États. Donc il y a des espaces pour faire monter la préoccupation et la pression, sortir de cette indifférence-là. Et puis deuxièmement, ce que l'on demande et ce que nos collègues du Moyen-Orient demandent, c'est que l'on prie avec eux et pour la paix. On sait que c'est un autre registre d'intervention, mais qu'il est aussi important. Et on se rappelle d'il y a 2 ans maintenant, quand le pape François a convoqué cette journée de prière pour la paix en Syrie, ce genre de démarche qui mobilise les consciences, c'est important. Alors, notre campagne a 2 autres dimensions qui ont été souhaitées par les membres. C'est que l'aide humanitaire, que l'on ne baisse pas la garde, parce qu'on sait que les années passant, et puis d'autres conflits ou d'autres désastres venant à la une, alors on va désinvestir ici pour... voilà. Donc les 8 millions de Syriens déplacés et les 4 millions de Syriens réfugiés reçoivent l'aide humanitaire qui est nécessaire. Et on n'y est pas. Donc c'est important de maintenir la pression là-dessus, qu'on n'oublie pas. Et puis la troisième dimension de cette campagne, bon, plus localisée, sera sur l'accueil des réfugiés, le bon accueil des réfugiés.
Et pas seulement dans les pays voisins.
Et pas seulement dans les pays voisins, voilà. Parce que les pays voisins portent une charge énorme. Les Libanais nous disent qu'il y a pratiquement 2 millions de Syriens au Liban. Il y a une population de 4 millions de Libanais, vous ajoutez 2 millions de Syriens. L'Allemagne accueille 1 million, ce qui est beaucoup, mais qui, au regard du 1,5 million accueilli par la Jordanie ou des 2 millions presque accueillis par la Turquie ou par le Liban, paraît quelque chose de juste. Quand on dit qu'on va accueillir 4 000, 10 000, même 100 000, je crois qu'on est en dessous de ce qui est décent.
D'autant que beaucoup de Syriens voudront rentrer chez eux si bien sûr le pays retrouve la paix.
Les Syriens le disent, pour l'instant en tout cas, si la guerre s'arrête et que le pays se reconstruit, ils rentreront massivement chez eux. Alors c'est sûr, pour ceux qui sont dans l'environnement immédiat, mais je pense que ceux qui arrivent ici peuvent aussi, si la situation le permet, avoir envie de rentrer chez eux. Donc il ne faut pas penser. Donc des camps de réfugiés, c'est une formule, c'est une solution temporaire.
Est-ce que vous pensez que finalement ceux qui se sont affrontés, parce qu'il y a eu des populations qui se sont affrontées avec évidemment des islamistes au milieu, Daesh, Al-Nusra, etc. Est-ce que vous pensez qu'il est possible à nouveau, est-ce qu'ils ont cet espoir d'ailleurs de pouvoir vivre ensemble dans des maisons les unes à côté des autres?
Ce que j'entends de nos amis, de nos collègues syriens, c'est oui. Ils donnent des témoignages d'amis musulmans qui veulent que les chrétiens restent et qui veulent retrouver un mode de vie commun comme avant, où ils vivaient heureux, disent-ils. Alors, ils ont peut-être oublié un peu les difficultés dans lesquelles ils étaient, mais en tout cas, oui. Et peut-être que le peuple syrien a cette capacité d'être uni au-delà des différences pour regarder l'avenir ensemble. Alors, il y a des mouvements extrémistes, ceux-là, bon... paraît compliqué, difficile.
Justement, la population ne s'est pas radicalisée?
Non, finalement, pas tant que ça. Et Daesh contrôle, mais les gens ne rejoignent pas Daesh en masse, quoi. Mossoul, donc on est là en Irak de l'autre côté, mais j'ai entendu beaucoup de chrétiens réfugiés au Kurdistan dire on ne retournera pas vivre avec ceux qui étaient nos voisins avant, qui ont occupé nos maisons, qui, etc. En Syrie, je n'ai pas entendu, alors ça dépend peut-être des régions de Syrie aussi, mais je vois à Kamishli, qui est donc partiellement occupé par Daesh, qui est dans le Jésiré, dans le nord-est de la Syrie, les gens qui restent vivre dans la ville proprement dite, donc musulmans et chrétiens ensemble. Il y a une habitude, il y a une tradition et visiblement aussi une volonté de montrer que c'est possible. En tout cas, il faut espérer dans cette direction.